Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Que s'est-il passé dans le centre du Mali en proie à l'insécurité et aux attaques terroristes? L'armée française dit que ses avions ont éliminé des dizaines de djihadistes, tandis que des villageois dénoncent la mort de plusieurs civils lors d'un mariage tué par une frappe aérienne. Deux versions pour un dimanche sanglant, vous l'entendrez.
Un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée.
Pour faire le point sur l'épidémie de Covid en France et accélérer la campagne de vaccination notamment, de nouveaux couacs sur le terrain, les élus locaux demandent à être plus entendus des décideurs à Paris.
L'Angleterre et l'Écosse reconfinent leur population. Durcissement des restrictions sanitaires aussi en Allemagne. Nous serons à Berlin dans ce journal.
Et nous irons également à Washington où Donald Trump encourage ses partisans à venir manifester en masse aujourd'hui pour contester la certification par le Congrès des résultats de la présidentielle remportée par Joe Biden. Un nouveau refus de la réalité électorale qui divise le camp républicain alors que la majorité au Sénat se joue en ce moment en Géorgie dans le sud des États-Unis. En cas de victoire démocrate, Joe Biden aurait les coudées franches pour gouverner.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, fichier de renseignement élargi, de quoi s'agit-il si vous ne le savez pas? Vous l'apprendrez dans une dizaine de minutes. Je poserai cette question à François Saint-Bonnet. Il est professeur de droit à l'Université de Paris 2.
C'est dans un paysage désertique, non loin du pays d'Ogon, dans une zone dont l'accès est rendu très compliqué par la présence de djihadistes, que s'affrontent donc deux versions pour un dimanche sanglant au Mali, près de Douenza, dans le centre du pays. Entre 6 et 20 personnes, selon les sources, ont été tuées. Des civils, dont des enfants, d'après des villageois maliens, des djihadistes affirment de leur côté les militaires français de la force Barkhane. Les précisions de Franck Cognard.
La frappe, explique l'état-major français, était le résultat de plusieurs jours de travail de renseignement et d'observation. L'objectif était clairement un regroupement djihadiste et dimanche après-midi, une patrouille de deux Mirage 2000 a survolé ce village de la région de Douenza et l'un d'eux a frappé une fois. Le mariage ne correspond pas aux observations, précise encore cette source militaire française. L'association locale, qui a en premier porté ces accusations contre Barkhane, maintient qu'il s'agissait d'un mariage, que les tués sont des civils et qu'il y a des enfants parmi eux. Des témoins ont d'abord parlé d'hélicoptères, se sont demandé s'il s'agissait de Français ou de Maliens à la manœuvre, mais ils restent sur cette ligne. Ce ne sont pas des djihadistes qui ont été tués, mais des civils qui ont été touchés. Barkhane peut expliquer ce qu'elle a fait, pas ce qu'elle n'a pas fait, répond l'état-major des armées interrogé sur ce point.
Mais pour Amadou Ndiko, président de l'association de jeunesse près de Douenza dans le centre du Mali, ce sont bien des militaires français ou maliens, les seuls dotés d'avions, qui ont tué des civils. Selon Amadou Ndiko, toujours 18 corps ont pu être identifiés, dont ceux de ses proches.
Les victimes, c'est des peuples qui célébraient le mariage de leurs enfants. Et entre-temps, il y a eu la frappe aérienne. Deux frappes simultanées. Certains parlent des missiles. Bon, moi, je sais que les corps étaient tellement mélangés qu'on ne parvenait même pas à les dissocier ou savoir quel corps appartient à telle personne ou à telle personne.
On ne sait pas précisément d'où sont venues donc ces frappes.
Personne ne sait, sauf qu'ils ont dit que c'est un avion, bien sûr. C'est ce qu'ils ont dit.
Qui dit ça?
Les villageois, ceux qui étaient présents. Vous savez, dans la zone, c'est une zone d'insécurité totale qui est contrôlée quasiment par les djihadistes. Même la force Barkhane n'est pas présente. Donc, c'est les avions qui sont capables de mener des frappes naturellement. Et les villageois, ils sont dépassés, ils sont ébahis, ils ne savent même plus quoi dire. Même si tu n'es pas djihadiste, tu ne seras pas épargné. C'est ça, tout le monde a peur. Ils ne connaissent pas qui est derrière, mais on sait que si ce n'est pas la force Barkhane, c'est les FAMA, c'est l'armée malienne. C'est les deux qui sont censés avoir des avions. Frapper sur une foule que vous n'avez pas pu identifier formellement, c'est quand même aberrant.
Amadou Ndiko, président de l'association de la jeunesse Tabital Poulakou dans le centre du Mali, il répondait à Olivier Poujade. Alors que la France songe à se désengager progressivement au Sahel, la ministre de la Défense a rendu un hommage national aux trois soldats tués le 28 décembre au Mali. Vous êtes tombés pour la France en combattant pour elle jusqu'à votre dernier souffle, a déclaré Florence Parly. Par ailleurs, la branche d'Al-Qaïda au Sahel a revendiqué hier la mort des deux soldats français tués samedi, toujours au Mali. Et puis un nouveau signe de cette tourmente sécuritaire au Sahel. Au moins 6 personnes ont été tuées au Burkina Faso. C'était lors d'une attaque dans le nord du pays. Là encore, tout près de la frontière malienne.
7h05 sur France Culture. La suite du journal de Catherine Dutu. 5000 nouvelles vaccinations contre le Covid ont été réalisées hier dans une trentaine d'hôpitaux.
Et une centaine d'établissements vont recevoir des doses aujourd'hui. C'est ce qu'a indiqué hier soir le ministre de la Santé, Olivier Véran, sous le feu des critiques pour un démarrage de la campagne vaccinale plus lent que chez nos voisins. Avec quelques couacs, le CHU de Nice a ainsi reçu 6000 seringues équipées d'aiguilles inadaptées, selon le chef du pôle pharmacie, des aiguilles trop courtes pour un vaccin intramusculaire. Il doit donc utiliser son stock préexistant plutôt que celui fourni par Santé publique France. D'autres aiguilles de ce type ont été livrées au CHU de Marseille, où l'on estime qu'il faut faire preuve d'adaptabilité. Avant, un nouveau point demain sur la campagne de vaccination avec Jean Castex. Un conseil de défense sanitaire se tient ce matin à l'Élysée pour détailler les nouvelles règles sanitaires dans les semaines à venir. Les élus locaux demandent à être mieux associés aux prises de décision, Bénédicte Robin.
Il y a eu des progrès, ça va mieux, veut temporiser le maire socialiste de Douai, Frédéric Chéreau. Il y a des concertations, mais encore bien trop de réticences.
Moi, j'ai demandé l'autorisation aux représentants de l'ARS de mettre en place une réunion locale avec la CPAM, qui enverra des bons aux habitants, avec le Centre communal d'action sociale, avec les médecins de ville. La réponse qui m'a été faite, c'est « Oh là là, ne vous précipitez pas tout de suite, on n'a pas toutes les réponses ». On a le sentiment d'un État, alors prudent, qui à la fois veut aller vite, mais tout contrôlé, et qui est encore dans une position ambivalente vis-à-vis des élus locaux, qui sont à la fois vus un petit peu comme des partenaires et parfois comme des empêcheurs de centraliser en rond.
Et c'est bien dommage, estime l'élu membre de l'Association des maires de France, car c'est du temps perdu.
La vaccination grand public, à partir de février, c'est quelque chose qui va aller très vite, et c'est quelque chose sur lequel on doit se préparer dès maintenant. On a dans beaucoup de villes déjà mis en place des salles de test, des salles de vaccination contre la grippe, donc on est prêt, on peut aller vite. Mais que l'État, à ce moment-là, nous laisse co-construire et travailler avec nous comme des partenaires.
D'ailleurs, la main est tendue, insiste de son côté l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Encore faut-il que l'exécutif s'en saisisse vite, car si la difficulté d'établir rapidement une stratégie vaccinale nationale est assez bien comprise, la mise à l'écart des acteurs locaux serait une faute, écrit pour sa part l'Assemblée des départements de France, qui ne manque pas de rappeler que les collectivités locales ont des personnels, des outils logistiques à mettre à disposition et surtout une connaissance plus fine des territoires et donc des publics les plus fragiles.
5000 personnes vaccinées contre le Covid hier, je le rappelle, en plus des 2000 doses déjà injectées depuis fin décembre en France. L'Angleterre a pris de l'avance, commençant sa campagne avec 3 semaines d'avance donc par rapport à l'Europe, mais le pays connaît une flambée épidémique sous la pression du variant du virus, avec désormais un Anglais sur 50 infecté aujourd'hui, selon le Bureau national des statistiques. Les Britanniques ont amorcé un long confinement, au moins jusqu'à mi-février, un temps que le gouvernement promet de mettre à profit pour vacciner près de 14 millions de personnes. En Allemagne, à présent, la chancelière Angela Merkel a annoncé de nouvelles restrictions hier soir, après une concertation avec les 16 dirigeants des Länder. Le reportage à Berlin de Ludovic Piétenu.
Au moins 3 semaines de plus que prévu jusqu'au 31 janvier, les commerces non essentiels restent fermés, tout comme les crèches et les écoles. La réalité, c'est que depuis le début de cette pandémie, l'Allemagne n'a jamais été autant touchée. Le système de santé est extrêmement sollicité, rappelle Angela Merkel. Il y a eu autant de décès liés au coronavirus au mois de décembre, près de 17 000, qu'il n'y en a eu entre le mois de mars et le mois de novembre. Le pic de cette vague semble avoir été passé la semaine dernière, c'est très récent, et on n'a pas encore les conséquences des rassemblements des fêtes de fin d'année. La chancelière explique sa décision.
Une raison, c'est que les contacts doivent encore être réduits, car nous ne sommes pas parvenus au mois de décembre à faire plonger la courbe de l'épidémie. Et l'autre raison, c'est la mutation du virus. S'il se multiplie, ça pourrait créer beaucoup d'insécurité.
Prolongation des mesures de restriction et durcissement. Désormais, pas plus d'une personne invitée à la maison. Et puis là où l'incidence est très élevée, ça représente environ un canton sur 5, on ne va pas au-delà de 15 km de son domicile. Une mesure à cette échelle jamais encore appliquée en Allemagne, sauf jusqu'à présent dans les quelques très gros foyers d'infection où le confinement et le couvre-feu étaient la norme.
7h09 sur France Culture. Aux États-Unis, le candidat démocrate revendique la victoire dans une élection sénatoriale cruciale en Géorgie, dans le sud du pays. Victoire face à la sénatrice républicaine sortante qui n'a pas concédé sa défaite. On attend les résultats complets pour ce double scrutin qui permettra de savoir si les républicains gardent ou non leur majorité au Sénat. Donald Trump, lui, refuse toujours de concéder la défaite et il a prévu de s'exprimer aujourd'hui lors d'une manifestation près de la Maison-Blanche. Il appelle ses soutiens à venir venir en nombre et très tôt pour contester la certification par le congrès de la présidentielle de novembre. La capitale fédérale sous haute sécurité dans la rue. Les groupes d'extrême droite comme les Proud Boys sont déjà en ville. Washington sous tension également au congrès où le parti républicain est au bord de l'implosion entre une poignée d'élus qui, comme Donald Trump, vont contester ces résultats et les autres qui valideront la victoire de Joe Biden, Gregory Phillips.
Une douzaine de sénateurs républicains et une centaine de représentants du même parti sont bien décidés à porter jusqu'au Capitole la contestation et à affirmer que l'élection du 3 novembre a été truquée. La fronde est menée par le sénateur du Texas, Ted Cruz, invité ici de Fox News.
Ensemble, nous allons rejeter la certification de ces résultats afin d'obliger le Congrès à convoquer une commission électorale qui devra procéder en urgence à un audit de cette élection. On peut le faire en 10 jours, en tout cas avant l'investiture. Il est de notre obligation de faire ça pour les électeurs. La Constitution, nous devons nous assurer que cette élection a respecté les règles.
En vérité, l'opération n'a aucune chance d'aboutir et ne fera que retarder de quelques heures la validation des résultats. Mais elle permet à Cruz ou au jeune sénateur du Missouri, Josh Hawley, de déjà se positionner pour 2024 et de surfer sur la colère des supporters trumpistes. L'initiative laisse en revanche un parti républicain totalement divisé entre d'un côté les élus qui ont déjà ou vont reconnaître la victoire de Biden, Trump les a déjà accusés d'appartenir au camp de la capitulation, ou ceux plus rares qui vont tenter de contester jusqu'au bout le résultat de cette présidentielle dans un jeu de calcul politique et personnel.
Et toujours aux États-Unis, la pandémie de Covid bouleverse le visage de la plus grande ville du pays, New York, avec ses restaurants à l'agonie et ses théâtres fermés. Tim Dolan, qui organisait avant la crise des visites guidées dans Broadway, a dû se résoudre à des visites virtuelles autour d'un Times Square déserté.
All of my friends hate Times Square because they're just trying to get to work.
Tous mes amis détestent Times Square parce qu'ils essayent juste de s'y frayer un chemin pour aller au travail. Moi j'adore, c'est toute ma vie, l'histoire de cet endroit, parler de ces théâtres, de ces quelques rues, c'est tout ce que j'aime. Alors moi ça me tue de ne voir personne ici, je ressens ça comme une anomalie, ça n'est pas supposé être comme ça. C'est dur, c'est très dur, mais je mets des œillères, je me concentre sur ce sur quoi j'ai la main, mes visites virtuelles, en espérant que lorsque l'on rebranchera la machine, toutes les pièces seront encore là.
You hope that when we plug the entire machine back in, you hope that all the parts are still there.
Tim Dolan, New-Yorkais, au micro de Loïc Loury, qui signe le reportage de la rédaction ce matin à 7h25 sur France Culture, sur la grosse pomme et son paysage culturel bouleversé. New York qui se réinvente aussi grâce aux nouvelles solidarités. Vous l'entendrez donc à partir de 7h25. Le temps de ce mercredi 6 janvier. Encore gris et froid avec de faibles chutes de neige sur les reliefs. Au meilleur de la journée, il fera entre 1 et 4 degrés sur la moitié nord, compté de 3 à 12 au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants, la question du jour, fichier de renseignement élargi, s'agit-il d'une atteinte à la liberté d'opinion ?